Les tribulations d'une institution lassalienne bayonnaise, le pensionnat Saint-Bernard. Voici une conférence enregistrée à la mairie de Bayonne le 28 janvier 2020 lors d'une rencontre organisée par la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne et la ville de Bayonne dans le cadre du tricentenaire de la mort de Saint-Jean-Baptiste de La Salle, 1651-1719. Cette conférence a été donnée par le frère Jacques Duiteau, originaire de Bayonne, frère des écoles chrétiennes fondées par Saint Jean-Baptiste de La Salle, professeur et délégué à l'enseignement supérieur de la Congrégation des frères des écoles chrétiennes. Les tribulations d'une institution lassalienne bayonnaise, le pensionnat Saint-Bernard. C'est en 1856 que voit le jour à Bayonne le premier pensionnat Saint-Bernard. Mais c'est en 1820 qu'arrivent à Bayonne les premiers frères des écoles chrétiennes, il y a 2 siècles. Aujourd'hui, nous vous proposons la première partie de la conférence du frère Jacques Duiteau. Dans cette première partie, il nous parle de la généalogie du pensionnat Saint-Bernard.
Bonjour à toutes et à tous. Quand Madame Pontet, et puis avec la complicité de l'abbé Esponde, m'ont demandé si j'acceptais de faire une présentation de l'histoire de Saint-Bernard, bon, j'ai un peu hésité parce que je ne suis pas très historien, je suis prof de lettres, j'ai été prof de lettres, mais pas historien. Mais en même temps, j'ai quand même un certain nombre de points qui fait que Saint-Bernard est un peu cher à mon cœur. D'abord, premièrement, je suis bayonnais, donc né à Bayonne. Hein, on peut voir d'ici, de la fenêtre, on peut voir la maison où j'étais, enfin l'immeuble où j'habitais, de l'autre côté de la Nive. Donc je suis du petit Bayonne. Hein. Ensuite, j'ai été ancien élève de Saint-Bernard. Ensuite, j'ai été professeur à Saint-Bernard pendant 5 ans. Et puis, finalement, ou un peu avant d'être professeur, je suis devenu frère. Et j'ai fait mon engagement définitif dans la chapelle de Saint-Bernard. Donc, vous voyez que pour moi, Saint-Bernard représente quelque chose d'important dans mon histoire personnelle. Ce qui fait que je n'ai pas trop hésité quand même à répondre favorablement à la demande qui m'a été faite. Alors, je vais essayer de vous présenter une histoire qui est une histoire longue. C'est sur 3 siècles, 19e, 20e et une histoire qui continue au 21e siècle. Donc c'est déjà une histoire qui s'écoule sur 3 siècles. Et puis en plus, il y a une... Tout à l'heure, Madame Ponté a parlé du tricentenaire, bien sûr, je vais y revenir. Hein. Mais il y a un autre centenaire qui est célébré, enfin qui pourrait être commémoré cette année, c'est le bicentenaire de la présence lassalienne à Bayonne. Nous allons voir que les frères sont arrivés en 1820 à Bayonne. Donc ça fait 200 ans que l'histoire de Bayonne, plutôt les frères partagent l'histoire de Bayonne. Alors, donc ça fait un certain nombre de raisons qui font que je pense que c'est une bonne idée d'avoir demandé de présenter un peu l'histoire de Saint-Bernard. Alors, je vais présenter ça en 2 parties, mais d'inégale longueur. Première partie assez rapide, que je vais appeler la généalogie de Saint-Bernard. Et déjà, si vous regardez sur l'écran, il y a marqué que Saint-Bernard est un maillon d'une tradition éducative tricentenaire. Donc, Saint-Bernard n'est qu'un maillon. Ça sera ma première partie. Et la deuxième partie, ça va être vraiment l'histoire du pensionnat Saint-Bernard. Et nous allons voir que cette histoire, elle ne se déroule pas uniquement à Bayonne. Alors d'abord, ce que j'appellerai l'ADN du collège. Alors d'abord, un maillon. Un maillon, vous avez ici une icône. C'est l'icône du tricentenaire du fondateur des frères des écoles chrétiennes qui s'appelle Jean-Baptiste de La Salle. Bon. Et cette icône, elle a été réalisée par un ancien élève, non pas de Saint-Bernard, mais d'une école d'ingénieurs du réseau lassalien qui se trouve à Beauvais. Et cette icône, donc, représente Jean-Baptiste de La Salle avec un garçon. Un garçon. Peut-être que vous voyez, le teint est un peu mat. Hein. Et c'est volontaire. Pourquoi ? Parce que si la tradition lassalienne dure depuis 3 siècles, elle s'est répandue dans le monde. et vous avez en couleur, eh bien, les régions du monde où on va trouver des écoles lassalliennes, des institutions lassalliennes. Alors, des écoles de tout acabit, aussi bien de la maternelle jusqu'à l'université. Donc, vous voyez, c'est une tradition qui se déploie dans le temps et dans l'espace. Et Saint-Bernard va contribuer à ce déploiement. Alors, nous allons voir comment. Alors, d'abord, quelques éléments sur ce que j'appelle l'ADN du pensionnat, c'est-à-dire des points saillants de la tradition lassallienne dans laquelle s'inscrit le pensionnat Saint-Bernard. Je vais aller très vite, hein, mais c'est pour quand même vous donner quelques éléments. Premier point, c'est la formation de tout l'être humain, tout l'homme ou la femme. Mais pour Saint-Bernard, ça, pendant très longtemps, ce n'était qu'une école de garçons. Donc, c'est-à-dire, l'ambition, c'est de prendre la personne dans toutes ses dimensions. Le corps, bien sûr, et nous allons voir qu'à Saint-Bernard, la tradition sportive est très forte. L'intelligence, on est dans une école, il s'agit de former l'intelligence. La sociabilité, on existe en tant que personne qu'en relation avec les autres, et par conséquent, il s'agit d'aider les enfants petit à petit à s'insérer dans une société. Et par exemple, Jean-Baptiste de La Salle va écrire un livre qui sera un best-seller, comme on dit aujourd'hui, à son époque, qui est « Le règle de bienséance et civilité chrétienne ». C'est-à-dire, il va se préoccuper de la politesse. Mais attention, la politesse, pas simplement vue comme un code, mais comme une façon de s'initier au respect de l'autre. Parce que la politesse, c'est ça. C'est respecter l'autre. La sensibilité, bien sûr. Les valeurs morales, et puis bien sûr, la vie spirituelle. Parce que dans la conception d'anthropologie qui sous-tend la tradition lassallienne et qui s'enracine, bien sûr, dans la tradition chrétienne, eh bien, l'homme, comme disait Pascal, l'homme passe l'homme. Il y a en chacun de nous une transcendance qu'il faut aussi permettre d'éduquer. Voilà le premier élément. Un autre élément, c'est l'adaptation et la réponse aux besoins de l'environnement local. C'est-à-dire que, dans la tradition lassallienne, l'école n'est pas hors sol. L'école, elle s'insère dans un milieu. Et nous allons voir que le Saint-Bernard, ça va être une des raisons de sa naissance. L'insertion dans un milieu très particulier, qui sera le milieu bâillonnais. Je prends un exemple du temps de Jean-Baptiste de La Salle. Les frères arrivent à Boulogne. Ils ne connaissent pas grand-chose de la pêche. Bon, Boulogne, port de pêche, qu'est-ce qu'ils vont former ? Des gamins qui, eux, seront des pêcheurs. Eh bien, ils vont très très vite élaborer un programme de formation pour les pêcheurs. Bon, vous voyez, l'adaptation au milieu. Un autre élément, c'est l'accueil le plus large possible. Et en particulier, de ceux qui ont des difficultés. Jean-Baptiste de La Salle, il a fondé ses écoles pour ce qu'il appelait les fils des artisans et des pauvres. C'est-à-dire des enfants qui n'avaient pas accès à l'école. L'école était faite pour l'élite sociale. Jean-Baptiste de La Salle, il fonde son école pour les enfants des artisans et des pauvres. Mais, ce qui va se passer de son temps même, c'est que, vu l'efficacité de l'école lassallienne, il y a des gens qui ne relèvent pas de cette catégorie sociale qui vont vouloir aussi rentrer dans les écoles. Et donc, il y a une espèce de mixité sociale qui va se créer peu à peu dans les écoles lassalliennes. Toujours dans ce que j'appelle l'ADN, c'est-à-dire les éléments constitutifs de l'identité lassallienne, une alliance, un mélange, un cocktail, appelez ça comme vous voudrez, entre la rationalité, le pragmatisme et la sensibilité. C'est-à-dire, la rationalité, pour les frères du temps de Jean-Baptiste de La Salle, mais ça va se continuer, il faut que l'enseignement soit quelque chose de construit, de rationnel d'une certaine manière. Et par exemple, eh bien, on va créer ce qu'on appelle des ordres, c'est-à-dire un enfant ne passera pas, on appelle ça un niveau aujourd'hui, un enfant ne passera pas d'un niveau à un autre sans qu'il soit capable d'accéder à l'autre niveau. Vous voyez ? Là, on pourrait se poser des questions par rapport à certains passages dans notre école actuelle, où finalement, on envoie des enfants à l'échec parce qu'ils n'ont pas les prérequis pour passer au niveau suivant. Là, on fait en sorte. Et il peut y avoir un enfant qui est au premier ordre en mathématiques, c'est-à-dire l'ordre le plus bas, mais au troisième ordre en français. Vous voyez ? Il y a aussi en même temps une personnalisation de l'enseignement. Donc il faut combiner ces deux éléments, rationalité et personnalisation. Et puis en même temps, j'allais dire, une discipline qui favorise l'attention. Souvent chez les frères, on disait l'école des frères, ça c'est fait pour les gens qui ont serré un peu la vis. Bon, on t'en verra chez les frères. Bon, c'était une menace. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'était une école où on favorisait l'attention. Il ne peut pas y avoir de formation sans attention. Et par exemple, dans les écoles lassalliennes, Jean-Baptiste Lassalle insiste beaucoup sur le silence. C'est paradoxal. Il insiste beaucoup sur le silence, l'apprentissage du silence. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, c'est un des gros problèmes. Il y a un numéro du point qui vient de sortir sur l'attention, justement. Bon. Donc là, il y a quelque chose d'important. Une acquisition raisonnée et une discipline favorisant l'attention. Mais en même temps, le souci de se mettre à la portée de l'élève. Ça ne sert à rien de faire des grandes phrases. J'étais prof de lettres. Ça ne sert à rien d'étudier des œuvres qui ne sont pas accessibles à des jeunes. C'est perdre son temps. Par contre, ce qu'il faut, c'est petit à petit, en se mettant à leur portée, finalement, augmenter leur niveau d'intelligence et leur niveau de connaissance. Voilà. Et puis, dernier élément, c'est toucher les cœurs. Ça, c'est une expression qui vient de Jean-Baptiste de La Salle. Jean-Baptiste de La Salle dit, il ne faut pas simplement avoir une relation de maître à élève. Il faut aussi toucher les cœurs. C'est-à-dire avoir un type de relation dans lequel, eh bien, le maître n'est pas simplement un maître. Et c'est pourquoi que les premiers maîtres réunis par Jean-Baptiste de La Salle, très vite vont s'appeler frères. C'est-à-dire, l'idéal, c'est d'établir une relation fraternelle avec les élèves. Et un climat fraternel dans l'établissement. Alors, c'est pas facile, mais c'est un objectif. Et pourquoi ? Parce qu'il s'agit de rendre l'élève affectionné à l'école. Très belle expression que j'aime bien. Rendre l'élève affectionné à l'école. N'oublions pas, 17e siècle, l'école n'est pas obligatoire. Les enfants viennent s'ils veulent ou si les parents les envoient. Donc si l'école n'est pas attractive pour les enfants, ils ne viendront pas. Donc, il s'agit de créer un climat qui font que l'élève va se sentir bien dans l'école. Et puis, un autre élément important, c'est la responsabilité sociale de l'école. Pourquoi ? Parce que l'école est un facteur d'intégration sociale. Et est aussi une façon de faire l'expérience de vivre en société. Et donc, l'école a une responsabilité. Jean-Baptiste Delsalle disait... Un élève qui sait lire et écrire peut tout. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on n'a pas très bien conscience, parce que c'est évident pour nous, savoir lire et écrire. Mais moi qui ai vécu en Afrique aussi, eh bien je m'aperçois que c'est pas évident, savoir lire et écrire. Et pourtant, quand on ne sait pas lire et écrire, comment on peut faire dans la vie ? Bon, je n'insiste pas. Et enfin, un dernier élément important aussi dans la tradition éducative lassallienne, c'est la vie collective forte. C'est-à-dire que le groupe, c'est pas simplement une nécessité, on vit en groupe, c'est en même temps un levier de formation. Le groupe est un lieu de formation. On ne se forme pas tout seul. On se forme avec un tas de rencontres, il suffit de regarder notre vie, toutes les rencontres qui nous ont forgés, qui nous ont formés. Voilà. Et donc, ça suppose une communauté éducative, Et pendant longtemps, ça a été la communauté des frères. On disait l'école des frères. Mais aussi en même temps, un travail collaboratif. Voilà. Donc ça, je n'insiste pas, mais voyez, je crois que c'est important d'avoir ça en tête. C'est-à-dire que le pensionnat Saint-Bernard s'inscrit dans une tradition éducative dont les éléments essentiels sont ceux que j'ai essayé de vous présenter rapidement. Alors maintenant, on va attaquer l'histoire du pensionnat Saint-Bernard. Et là, vous avez sur la photo la couverture d'un historique du pensionnat Saint-Bernard qui se trouve à Rome. Il se trouve que j'ai été il y a quelques jours à Rome et je me suis plongé dans cet historique manuscrit qui raconte les débuts de la présence lassallienne à Bayonne. Alors, donc les frères arrivent à 1820. Et la venue des frères, ce n'est pas les frères qui sont venus. On les a appelés. Et on les a appelés et par deux catégories de qui aussi jouent un rôle important dans la vie bayonnaise. C'est le clergé d'un côté, la bourgeoisie de l'autre. Pourquoi ? C'est-à-dire que la bourgeoisie, nous sommes en 1820, nous sortons de la Révolution française. Et la bourgeoisie bayonnaise, qui retrouve un certain... s'est enrichie, hein, eh bien, elle a une préoccupation. C'est qu'il y a des enfants qui n'ont pas d'école. Il n'y a pas d'école pour les enfants, en particulier les enfants les plus pauvres. Et donc, cette bourgeoisie se dit, il faut qu'on s'en préoccupe. Et en particulier, il y a une figure qui va s'en préoccuper, c'est le banquier Lormand. Ça, vous connaissez ça à Bayonne, hein, rue Lormand, etc. Et c'est un philanthrope. Hein. Le banquier Lormand, il a une fortune colossale et il va en faire profiter, il est célibataire, et il va en faire profiter donc Bayonne. Il est attaché à sa ville. Et nous dit d'ailleurs un bulletin des frères des écoles chrétiennes de 1910, il présente le banquier Lormand comme celui qui dota les pauvres de millions de francs et laissa pour l'entretien de la cathédrale une rente annuelle de 40 000 francs. Mais aussi le banquier Lormand, par un legs qu'il aura fait, contribuera à la construction de Saint-André. Voilà. Et on verra tout à l'heure que ça va jouer un rôle sur l'histoire de pensionnat Saint-Bernard. Alors, la première école des frères, donc, elle naît d'initiative privée. Et avant toute intervention officielle. Elle est modeste, de classe, et dans un lieu un peu inattendu. C'est que la première école des frères de deux classes, c'est dans le cloître de la cathédrale qu'elle se trouve. Et pendant 4 ans, les frères, c'est pour ça que vous avez la photo du cloître, je dirais, vont travailler à l'ombre de la cathédrale. Pendant 4 ans. Mais au bout de 4 ans, ils trouvent quand même que c'est un peu bizarre de travailler, d'avoir une école dans une cloître. Alors, ils demandent, qu'ils disent, bon, c'est pas possible, hein, on ne peut pas continuer comme ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, en 1824, le conseil municipal, alors là, interviennent, j'allais dire, les édiles de la ville. Le conseil municipal cède aux frères ce qu'on appelle à l'époque le petit collège. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit collège ? Eh bien, c'est un bâtiment très ancien. Il a été bâti en 1588, 16e siècle, par la municipalité. Et il est situé, il n'existe plus aujourd'hui, parce qu'il est situé entre l'église Saint-André actuelle et puis le lycée Paul Bert. C'était dans cet endroit-là qu'il se trouvait. Et ce petit collège, il a une histoire intéressante parce que il a été habité en 1606 et même dirigé pendant quelque temps par quelqu'un qui a un nom célèbre, c'est Jean Sénius. Donc, le pape du jansénisme, si on peut dire, hein, d'où le nom, jansénisme. Hein. Bon, et Jansénus a été appelé par un autre bayonnais illustre, qui est son ami, c'est l'abbé de Saint-Cyran, du Vergier de Orane, abbé de Saint-Cyran, lequel va être en quelque sorte l'introducteur du jansénisme en France, via Port-Royal, dont il était bien sûr l'aumônier. Vous voyez ? Alors c'est assez étonnant que les frères, quelques siècles plus tard, s'installent dans un haut lieu où a vécu Jansénius. Pourquoi c'est assez un peu une ironie de l'histoire ? Parce que Jean-Baptiste de La Salle, le fondateur, il a eu maille à partir avec le jansénisme. Parce que par fidélité au pape, il a refusé le jansénisme. Et pourtant, il avait eu des sollicitations. Par exemple, à Marseille, les jansénistes de la ville lui disaient « On vous fait un pont d'or pour vos écoles à une condition, c'est que vous acceptiez les thèses jansénistes. » Et Jean-Baptiste Salle dit « Pas question. » Bon. Donc, quelques siècles plus tard, des frères se retrouvent à l'endroit où se trouvait Jansénius. C'est assez étonnant. En même temps, on peut dire que le départ d'une œuvre, c'est une règle un peu historique, le départ d'une œuvre lui donne ses traits caractéristiques. Et on peut noter, à partir déjà de cet premier aspect de l'histoire, on peut noter que dès le début, la présence des frères à Bayonne est liée à trois composantes. Trois composantes du tissu social de la ville, de l'époque, bien sûr. Le clergé, à l'ombre de la cathédrale. La bourgeoisie locale, qui fait appel aux frères pour s'occuper des gamins qui n'ont pas d'école. Et puis, la municipalité, qui permet aux frères d'avoir un lieu pour vraiment faire l'école. Et en particulier, la municipalité va prendre de plus en plus d'importance à partir de... avec une élection de quelqu'un aussi qui est une figure bayonnaise, M. Dubroc, en 1829, qui devient maire de Bayonne, et que nous allons retrouver à une autre circonstance où il va jouer un rôle important pour le pensionnat Saint-Bernard. Donc, vous voyez, 1820, arrivée des frères, une histoire où déjà, les frères, ça bouge. Et puis, en 1839... les frères répondent à l'appel d'une autre municipalité, qui n'est pas la municipalité de Bayonne, mais qui, aujourd'hui, fait partie de Bayonne. C'est Saint-Esprit. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, Saint-Esprit ne fait pas partie de Bayonne, ne fait pas partie de ce qu'on appelle les Basses-Pyrénées. Ça fait partie des Landes. Et donc, cette municipalité demande aussi que des frères viennent. Et les frères vont s'installer dans un lieu qui se trouve avenue Ulysse d'Arac. Vous avez une école, et c'était l'emplacement de l'école des frères de l'époque. Et qu'est-ce qui se passe ? Le problème, c'est que c'est cette école de Saint-Esprit qui va être le berceau du pensionnat Saint-Bernard. C'est là qu'est né le pensionnat Saint-Bernard. C'est pas à Bayonne, c'est à Saint-Esprit. Mais il va se passer quelque chose qui va préparer un autre déménagement. Vous voyez, à Bayonne, les frères, ils vont constamment bouger. C'est-à-dire qu'en 1852, on commence la construction de Saint-André. Et donc 1852, c'est la construction de l'école de Saint-André. De l'église de Saint-André. Et ben oui, mais pour construire l'église de Saint-André, il faut raser le petit collège. Donc les frères se retrouvent à nouveau à chercher un lieu. Alors on leur propose un terrain, mais ils trouvent que c'est pas adapté à une école. Et puis en plus, nous dit l'historique de Saint-Bernard, il y avait un autre inconvénient, c'est que ce lieu, il était juste à côté d'un temple protestant. Alors ça... l'œcuménisme à l'époque, on ne connaissait pas trop. Donc les frères refusent cet emplacement. Alors vous avez ici donc une vue de l'église Saint-André, telle que les frères l'ont vue à cette époque, avec les deux flèches. Et vous savez que les flèches ont été rasées parce que le bâtiment menaçait de s'écrouler. Donc on a rasé les flèches en 1901. Et donc les frères, il faut qu'ils trouvent un autre lieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils vont quitter le petit Bayonne. Parce que, ben, ils le regrettent, mais ils quittent le petit Bayonne. Et ils vont s'installer rue Vinceau, ce qu'on appelle à l'époque la rue Vinceau, qui aujourd'hui est la rue Albert Ier. Voilà. Donc, en face du Château Vieux. Et ce qui est intéressant, c'est que, en souvenir du petit collège, ils emportent une inscription qui datait de l'époque de Jansénius, hein, et qui disait ceci. Voilà ce que disait l'inscription, qui était sur une plaque. Ô Dieu, l'heureux succès par les trois bâtiments, l'école, l'arsenal, le rempart de la France. Je bannis, je détruis, je chasse en même temps l'ennemi loin de moi, la faim et l'ignorance. Voilà. Donc cette inscription qui montre que la vie de la ville, eh bien, accorde beaucoup d'importance à ces trois éléments, dont l'école. Et alors c'est cette année-là, donc nous sommes en 1852, cette année-là arrive à Bayonne un frère qui va jouer un rôle très important dans l'histoire du pensionnat Saint-Bernard. C'est un frère qui s'appelle le frère Irlide. Alors ça, c'est le début du pensionnat Saint-Bernard, vous voyez, ça c'est l'école de Saint-Esprit. Bon. Et le frère Irlide, le voici, il va jouer un rôle important parce que c'est lui qui va fonder le pensionnat Saint-Bernard. Et ce frère Irlide va rester pendant 21 ans directeur des écoles de Bayonne. N'oublions pas qu'à l'époque, les écoles congréganistes sont considérées comme des écoles publiques. Donc, la municipalité, tout ça, ça fait partie. Et lui va être directeur donc, des écoles de Saint-Bernard. Alors, je reviens un peu en arrière. Ce frère Irlide, eh bien, lui, il a en tête d'ouvrir un pensionnat. Alors, l'idée n'est pas nouvelle chez les frères, l'idée d'un pensionnat. Parce que, déjà, Jean-Baptiste de La Salle en a ouvert un à Rouen, à la demande des familles de marchands. Donc là, on n'est plus dans l'école. On accueille des jeunes que l'on garde pendant nuit et jour, j'allais dire. On est dans un pensionnat. Mais ce type d'école va rester sans suite jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. La tradition ne va pas perdurer. En revanche, l'idée va ressurgir au XIXe siècle et va se développer en réponse à des besoins de scolarisation, d'une part de la classe moyenne, en particulier commerçants et professions libérales qui n'ont pas trop le temps de s'occuper de leurs enfants, et en même temps aussi, une petite bourgeoisie rurale qui ne trouve pas sur place un lieu, une école pour accueillir les jeunes. Et donc, vous voyez ici, on retrouve une caractéristique. Les frères s'adaptent aux situations réelles des gens à qui ils s'adressent, et en particulier des parents. Et donc, c'est dans cet esprit que va germer l'idée d'ouvrir un pensionnat à Bayonne. Et voilà ce qui est écrit en 1857. Un journal bayonnais qui a disparu, il s'appelle Le Courrier. Et ce journal dit ceci. Quand les arts, quand le commerce, quand l'industrie sollicitent de toutes parts le jeune homme à monter d'un degré de plus sur l'échelle sociale, vous voyez, l'école comme facteur de promotion sociale. Il fallait une école supérieure qui se plaçât par le niveau de ses études au-dessus de l'instruction primaire de nos classes, tout en restant au-dessous des travaux plus relevés qui tendent au grade universitaire. Vous voyez le besoin, je veux dire, d'une école intermédiaire qui n'existe pas à l'époque. Il fallait qu'une cité commerçante comme Bayonne puisse alimenter dans son propre sein pour soutenir ce qui fait sa gloire et sa vie. Il fallait qu'une contrée comme la nôtre, où l'ouverture des lignes de fer, donc le chemin de fer qui arrive, nous invite à des choses nouvelles, vit surgir aussi dans ses habitants de nouvelles connaissances qui égalassent les hommes aux choses. On est dans une problématique où les choses bougent, on en prend conscience et il faut répondre, que les jeunes puissent être capables, eh bien, de répondre à cette nouveauté. Les frères sont venus, leur établissement s'est élevé, nos populations ont compris leur but, les familles leur ont confié leurs enfants et nous en avons déjà recueilli les premiers fruits. Voilà, 1857. Eh bien, c'est bien dans cet esprit que le frère Irlide s'adresse au supérieur général de l'époque, le frère Philippe, pour lui demander d'ouvrir un pensionnat. Et chez les frères, on ne fait pas tout par initiative personnelle, on en débat. Eh bien, là, il dit, ça vaudrait la peine d'ouvrir un pensionnat à Bayonne. Et en effet, voilà comment il justifie cette ouverture. Il dit ceci, « Ce serait comme une pépinière où le commerce et l'industrie trouveraient des ouvriers assez instruits pour comprendre les découvertes de la science moderne et les appliquer avec intelligence. Qui seraient, en un mot, des industriels comme Bayonne en a besoin, afin que l'avenir réponde à son glorieux passé. » Donc, l'idée est bien d'ouvrir un lieu d'éducation au service du développement de la ville. Seulement, ce que le frère Élie ne dit pas, ou ne dit pas à ce moment-là, c'est qu'il a une autre idée derrière la tête. Et cette autre idée, c'est la suivante. Il va l'exprimer, mais plus tard. Il dit ceci. « J'avais les yeux sur l'Espagne. Il me semblait que nous pourrions faire beaucoup de bien dans ce pays catholique. Mais pour y aller, nous devions être connus. Et j'ai cru que le meilleur moyen d'y parvenir était de fonder un pensionnat à Bayonne. Placé à la frontière, il attirerait beaucoup d'élèves de la péninsule. » Son idée, c'est que le pensionnat permette à des jeunes Espagnols de venir se former à Bayonne, en France, apprennent le français, et fassent petit à petit connaître, eh bien, les frères. Donc vous voyez que les objectifs du pensionnat sont clairement définis par le frère fondateur, le frère Irlide, offrir une formation adaptée aux évolutions professionnelles, économiques et sociales du terroir bayonnais. Premier objectif. Mais deuxième objectif, le pensionnat dans sa tête doit être une espèce de tête de pont pour le mouvement lassalien par rapport à l'Espagne, qui à l'époque n'a pas de frères. Eh bien, je peux dire qu'au long de son histoire, et nous allons le voir, même à son corps défendant, ça c'était pas, il n'a pas toujours prévu ce qui s'est passé, eh bien, le pensionnat Saint-Bernard va remplir cette feuille de route. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, le frère Irlide choisit d'ouvrir ce pensionnat en le greffant sur l'école ouverte à Saint-Esprit. Donc, il y avait déjà une école à Saint-Esprit, il se dit, bon, on va partir de l'existant et on va ouvrir le pensionnat à Saint-Esprit. Et en effet, cette première localisation va déterminer le nom. Pourquoi ça s'appelle Saint-Bernard? C'est parce qu'à Saint-Bernard, dans ce quartier Saint-Bernard, il y a une forte dévotion à Saint-Bernard, justement. D'où le nom que va prendre le pensionnat. Et le préfet des Landes, nous sommes toujours... Saint-Esprit fait partie des Landes. Le préfet des Landes accorde l'autorisation d'ouverture le 29 septembre 1856. C'est l'acte de naissance du pensionnat Saint-Bernard. 8 élèves se présentent. Pas dire que ce soit un grand succès. 8 élèves se présentent. Bon. Mais, un an après, ils sont 10 fois plus. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Le frère Ulide s'est dit, il faut faire de la publicité. Ni plus, ni moins. Et donc, il va faire rédiger un prospectus en français et en espagnol de façon à le diffuser de l'autre côté des Pyrénées, ou au moins de la Bidassoa. Et puis, il y a autre chose qui s'est passée à ce moment-là. C'est que la loi du 1er juin 1857 rattache à Bayonne et au département des Basses-Pyrénées les communes de Saint-Esprit, du Boucaud et de Saint-Étienne. Donc, tout d'un coup, le pensionnat Saint-Bernard se retrouve à Bayonne. Et donc, le prospectus élaboré par le frère Élide montre que le programme des études, vous savez, à cette époque, c'est la grande liberté. Hein. L'État ne se préoccupe pas d'établir des programmes comme aujourd'hui. Il n'y a pas de programme national. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce programme? Eh bien, il y a ceci. D'abord, le prospectus dit il y a un système complet d'enseignement pour les élèves qui se destinent à embrasser les professions commerciales ou industrielles. Toujours cette idée, former les jeunes pour la réalité sociale dans laquelle ils vivent. Deuxièmement, une préparation convenable pour ceux qui devront recevoir plus tard l'enseignement secondaire dans les séminaires, les lycées et les collèges. Donc, on n'exclut pas que des élèves puissent continuer leurs études. Et puis ensuite, s'y ajoutent des langues vivantes, donc l'espagnol évidemment, du dessin, de la musique, de la vocale et instrumentale. Donc vous voyez que l'objectif du pensionnat, tel que le fixe le frère Élide, est à la fois un objectif de type pratique, mais aussi généraliste. Voilà. Donc, le pensionnat Saint-Bernard commence.
Les tribulations d'une institution lassalienne bayonnaise, le pensionnat Saint-Bernard. Vous venez d'entendre la première partie de la conférence du frère Jacques Duiteau, professeur et délégué à l'enseignement supérieur de la Congrégation des Frères des Écoles Chrétiennes. Cette conférence a été enregistrée à la mairie de Bayonne le 28 janvier 2020. Elle était organisée par la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne et la ville de Bayonne dans le cadre du tricentenaire de la mort de Saint Jean-Baptiste de La Salle, 1651-1719, fondateur des Frères des Écoles Chrétiennes. La semaine prochaine sur notre antenne, même jour, même heure, vous pourrez entendre la seconde et dernière partie de la conférence du frère Jacques Duiteau. Il nous parlera plus précisément de l'histoire du pensionnat Saint-Bernard. D'ores et déjà, vous pouvez écouter l'intégralité de cette conférence sur notre site internet www.lapourdi.net.